Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est demain que commence la 9e Coupe du Monde de rugby. Ça va se passer au Japon. Le Japon, on y joue au rugby depuis de très nombreuses années, depuis le 19e siècle en fait. Mais c'est quand même la première fois que la Coupe du Monde est organisée en Asie et que la planète ovale s'aventure en dehors de ses places fortes. Cela prouve la volonté des dirigeants du rugby mondial de développer leur jeu à l'international, mais c'est un jeu qui reste profondément marqué géographiquement et culturellement dans le monde britannique et ses alentours, à quelques exceptions près. Le rugby peut-il sortir de ses frontières traditionnelles? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Arnaud Coudry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service des sports du quotidien français Le Figaro et vous suivez particulièrement l'actualité du rugby. Et Alexandre Pedro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Tampon, le hors-série rugby de SoFoot. Japon-Russie, c'est le match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Pour ceux qui suivent le rugby depuis longtemps, c'est quand même un petit peu improbable, non, Arnaud Coudry?
Oui, complètement. C'est pas vraiment l'affiche qui fait rêver, qui va lancer la compétition. Heureusement, dès le lendemain, quand même, on a trois super affiches. On a quand même Fidji-Australie, l'équipe de France qui va jouer contre l'Argentine. Et on a ce qui apparaît comme une finale avant l'heure avec la Nouvelle-Zélande qui affronte l'Afrique du Sud. Donc on va vite avoir des gros matchs à se mettre sous la dent.
Alexandre Pedro, ça vous surprend, vous, de voir des Japon-Russie en Coupe du Monde de rugby? C'est étonnant, non?
Ça va être la seule note d'exotisme, puisque par rapport aux équipes de 2015, la Russie, le seul petit niveau, la Russie a remplacé la Roumanie pour une histoire de joueurs, je crois, qui n'avaient pas leur nationalité, voilà, non éligibles aux Roumains. Donc les Russes ont pris la place des Roumains. Donc ça prouve bien un peu le statu quo qu'il y a dans le rugby. Ah voilà. Après, le côté match ouverture donne un côté plus particulier à ce match-là. S'il était au milieu de la compétition, on le regarderait pas. Là, c'est le début. On verra la cérémonie d'ouverture. On verra un peu ce match-là pour le côté un peu folklorique.
Alors, il y a quelques années, en 1995, en Afrique du Sud, le Japon avait encaissé la plus lourde défaite de l'histoire de la Coupe du Monde. 145-17 contre la Nouvelle-Zélande. Et la dernière fois, alors en 2015, ils ont battu l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il est donc possible de progresser dans ce jeu. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, Arnaud Coudry?
En fait, le rugby japonais est très basé sur une culture universitaire. On joue beaucoup en université. Et après, c'est un championnat qu'on pourrait dire corpo. Ce sont des entreprises qui financent les clubs. Et donc, aujourd'hui aussi, ce qui se passe, c'est que le Japon est devenu un peu la place forte pour attirer les stars de la planète ovale, devant le top 14. Et donc, on a un mélange entre des joueurs japonais qui sont dans leur club d'entreprise, qui sont assez puissants, et des stars qu'on fait progresser le niveau du rugby japonais. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est quand même que dans l'équipe du Japon, il y a la moitié des joueurs qui sont pas nés au Japon.
Ouais, qui sont australiens, néo-zélandais.
Voilà, naturalisés. Ou même pas naturalisés, mais qui sont japonais comme vous et moi. Quoi.
Alexandre Pedro.
Ça a bien aidé le Japon, mais après, les joueurs japonais ont quand même progressé, notamment sa densité physique. Ouais, ils jouent avec leur force. Voilà, c'est pas des gros Golgothes, mais ils ont de la vitesse, ils ont de l'intuition, et dans un rugby qui tend à aller un peu plus vers le mouvement, ils trouvent un peu plus leur place qu'il y a 15-20 ans où ils étaient pas invités.
Et puis il y a peut-être aussi une culture de la répétition qui fait qu'ils sont bons pour ce qu'on appelle les skills au rugby, c'est-à-dire la capacité technique.
Techniquement c'est des joueurs très au point et puis qui ont appris quand même avec Eddie Jones, l'ancien sélectionneur qui est maintenant à la tête de l'Angleterre, à un peu désobéir aux ordres et à sortir un peu du cadre préétabli qui était un peu leur travers où on leur disait faut faire ça et ils faisaient ça mécaniquement. Alors qu'ils ont maintenant appris une culture. Pas oublier quand même qu'aussi le 15 de France a fait match nul contre le Japon.
23-23.
Voilà, donc c'est une équipe, je pense, à prendre au sérieux, qui est dans une poule où en fait ils pourront quand même essayer de s'extraire. Hein. Ils sont avec l'Irlande et l'Écosse. Je pense que s'ils arrivent à battre l'Écosse, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire il y a 4 ans, c'est jouable pour eux. Quoi.
Alexandre Pedro, oui, vous voulez ajouter
quelque
chose?
C'est la seule équipe finalement dans les petits qui a progressé depuis 15-20 ans. Parce que aussi, c'est le Japon, c'est un pays riche qui peut mettre les moyens. Je vois pas d'autres pays émergents. Il y a un petit peu les États-Unis qui va rencontrer la France qui ont progressé, mais ils sont encore loin du niveau du Japon. Mais sinon, si on regarde en dessous, il n'y a pas d'autres pays vraiment qui ont émergé ces dernières années.
Ouais. Ouais. Si je vous dis sport régional, Arnaud Coudry, qu'est-ce que vous, enfin régional au niveau mondial.
Ouais, ouais. Bah c'est vrai que c'est des bastions qui sont très très identifiés, hein, très en dehors de la France, et de l'Italie, et des pays latins un peu, donc Italie, Argentine. C'est des bastions anglo-saxons. Donc et ça reste même si donc je pense qu'on viendra en parler aussi sur l'émergence du rugby à 7 a fait qu'il y a une culture rugby qui s'est développée dans plein de pays du monde qui n'existait pas il y a quelques années. Par exemple, si on regarde le Kenya, c'est la 8e nation mondiale en termes de licenciés. Devant l'Argentine, par exemple, qui est 9e. Donc, et il y a eu plein de pays comme ça qui se sont mis au rugby, qui n'ont pas une culture à 15, qui est difficile à avoir. Faut avoir des joueurs très spécifiques sur des sports spécifiques.
Ouais, parce que pour faire une équipe à 15, il faut au moins 40 joueurs. Hein,
c'est maintenant. C'est ça. Puis des grands, des petits, des gros, des rapides. C'est compliqué. Alors qu'à 7, c'est plus uniforme et c'est plus facile en un temps rapide d'être opérationnel.
Je voudrais parler d'Eddie Jones, l'ancien entraîneur des Japonais, Alexandre Pedro. Il était tellement exigeant, hein, alors que les Japonais, ils ont quand même l'habitude de travailler et de faire ce qu'on leur dit, qu'à la fin de la Coupe du Monde 2015, les joueurs ont fait pression pour qu'il ne soit pas reconduit. C'était trop dur.
Ouais, mais c'est la même chose avec l'équipe d'Angleterre. Hein. Il est pas postulé non pour l'équipe de France, Eddie Jones.
C'est Clay Woodward. On l'a évoqué.
On a évoqué son nom. Ça aurait été assez marrant.
Le cap culturel est peut-être un petit peu.
Père Fouettard,
de le voir arriver dans le 15 de France. Et puis Jones qui est à moitié japonais hein, par sa mère, je crois. Donc voilà, il incarne un petit peu cette mondialisation lui-même.
Or, vous en avez parlé, Alexandre Pedro. Organiser cette Coupe du Monde au Japon, il y a une question de moyens. Aussi, c'est un pari sur l'avenir, c'est un investissement. Est-ce que c'est un jackpot?
Pour World Rugby, il n'y a pas beaucoup de pays qui leur donnent des garanties parce que on parle beaucoup de la Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande, c'est un marché ridicule de 4,5 millions d'habitants. L'Australie, il faut rappeler que l'Australie, c'est un sport mineur. Le sport majeur, c'est le rugby australien et le 13. Le 15 passe derrière. Il reste l'Afrique du Sud, qui n'est pas non plus un énorme marché. Et après, c'est la France et l'Angleterre. Donc, il y a trois gros marchés, France, Angleterre, Japon. Donc, c'est pour ça aussi que la France va réorganiser la Coupe du Monde en 2023, parce que World Rugby s'y retrouve financièrement plus qu'en donnant à l'Afrique du Sud, par exemple.
Je pense qu'il y a deux choses, déjà. D'une Coupe du Monde à l'autre, l'idée de World Rugby, c'est d'en faire une dans l'hémisphère sud qui rapporte pas... autant qu'en Europe, et revenir en Europe 4 ans après pour remplir les caisses. Et là, il y avait des gros doutes sur la capacité à ce que la Coupe du Monde au Japon soit rentable. Et finalement, les taux de remplissage dans les stades sont à 95%. Il y a des affiches improbables comme Fidji, Uruguay, ou Namibie, Canada, qui sont à guichet complet, à guichet fermé, puisqu'ils se trouvent à Kamayashi, donc qui a été la ville un peu sinistrée par le tsunami et tout ça, voilà. Et donc, il y avait plein de doutes sur la capacité à ce que la Coupe du Monde au Japon soit rentable. C'est pour ça que, grosso modo, ils étaient revenus en France pour 2023, où en étant sûr que cette fois-ci, ils rempliraient les caisses. Mais au final, ça va être un succès économique. On en est à 293 millions de recettes de billetterie, sur les prévisions là qui sont en cours. Et c'est au-dessus de ce qu'il y avait eu en Angleterre, qui était à 245 millions.
Et les Anglais, les Britanniques vont au stade et ils payent des billets à Alexandre Pedro. 15 000 personnes au premier entraînement des Gallois au Japon. C'est fou, on s'attend pas à ça.
Ah mais s'il y a un pays où il y a une vraie culture rugby, c'est le Pays de Galles, hein, où le rugby même peut-être devant le foot. Donc là-dessus c'est pas étonnant. Et puis le client anglais ou britannique lui consomme au stade, il boit, il mange, donc il est assez rentable. Et pour revenir sur les pays organisateurs, un pays comme l'Argentine qui a une vraie culture rugby, on voit qu'ils ont jamais été en mesure d'organiser une Coupe du Monde parce qu'ils sont pas sûrs de remplir les stades, parce que ça reste un sport quand même plutôt bourgeois là-bas. Donc il y a peut-être les États-Unis qui peuvent être une piste pour une future Coupe du Monde, mais il n'y a pas beaucoup d'autres pays finalement potentiellement hôtes.
Au final, on va se retrouver avec 450 000 visiteurs au Japon, ce qui est assez colossal. Et pour revenir sur ce que disait Alexandre, sur la culture d'aller à l'étranger des supporters britanniques, c'est un peu comme tous les 4 ans, la tournée des Lions. C'est un rendez-vous qui est super important pour eux et ils n'hésitent pas à casser la tirelire et à partir un mois pour supporter Galles, Écosse, Angleterre, comme ils font pour les Lions.
Le format de la Coupe du Monde depuis plusieurs années avec 5 pays par poule. C'est aussi la marque de cette volonté de développer l'ouverture du rugby au monde.
Parce qu'auparavant, c'était 16 hein, jusqu'en...
C'était 16 jusqu'en 2003.
2003. Oui. Donc, passer à 20, c'était la seule possibilité de faire rentrer des pays comme la Russie, Uruguay. Ça a un désavantage, c'est que ça avait rallongé dans un premier temps la Coupe du Monde. Là, on l'a resserré en mettant des matchs tous les 4 jours. Alors auparavant, c'était évidemment seuls les petits pays qui jouaient tous les 4 jours. Ça, c'est très rugby. Hein, on s'arrange entre nous, c'est quand même toujours les petits qui payent. Et là, cette fois, donc la France va, comme les petits pays, va faire 2 matchs en 4 jours. Elle va faire Tonga, États-Unis. Voilà. Donc c'est une coupe du monde de rugby, c'est compliqué de la faire en moins de 6 semaines.
Oui, hein, parce qu'elle commence en septembre, elle se termine en novembre.
C'est le 2 novembre. Ouais. Le malheur du Japon il y a 4 ans, c'était qu'en fait ils battent les Sud-Africains et 4 jours après ils affrontaient l'Écosse. Ils étaient ils avaient pris une déculottée. Alors que cette année, ils se retrouvent. C'est marrant, le Japon et l'Écosse pour un match qui pourrait être décisif pour la deuxième place. Et cette fois-ci, le Japon va 8 jours pour se préparer et l'Écosse n'en aura que 4.
Ouais, ça sera donc le retour de balancier. Peut-être, on verra le résultat. Cette compétition qui se déroule sur 3 mois, c'est effectivement un peu long. Le problème, vous le disiez, ce sont les écarts aussi de niveau. Mmh. On a toujours peur quand je vous parlais de ce Nouvelle-Zélande Japon en Afrique du Sud en 1995. Il y a eu aussi un Nouvelle-Zélande Portugal à Lyon en France en 2007.
À Lyon.
Je me doute que vous étiez là-bas, Alexandre Pedro. On avait un peu peur avant le match. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Il y a eu des accidents.
Malheureusement le drame
Max Brito,
de Max Brito, mais c'était un match contre les Tonga, qui était plutôt un match équilibré. Il n'y a pas eu un gros score. Il y a toujours ce risque-là, même si on voit moins des scores à 100 points. On est plutôt maintenant à tourner autour des 60 points. Des équipes comme la Namibie ont quand même progressé. La Géorgie, c'est une équipe assez forte aussi. Donc les petits sont moins faibles. Mais vous connaissez à peu près déjà les quarts de finale. Le doute, ça va être France-Argentine ou...
c'est sur Fidji, peut-être Galles,
ouais. Australie. Et par exemple, il y a eu depuis 87, il n'y a eu que 5 finalistes, les 3 équipes du Sud plus l'Angleterre et la France. Alors que le foot, assez rapidement, vous avez eu quand même une plus grande représentation des finalistes et demi-finalistes. C'est un cercle fermé, le rugby. Hein.
Vous le disiez, Arnaud Coudray, est-ce que c'est pas surtout par le rugby à 7 qui est olympique que le jeu peut gagner de nouveaux territoires? Vous parliez du Kenya, c'est une très bonne équipe à 7, le Kenya.
Ouais, complètement. Puis même, donc j'avais trouvé d'autres chiffres. Ce qui est dingue, c'est dans les chiffres de World Rugby, c'est que Sri Lanka et le Sri Lanka et Madagascar ont plus de licenciés que l'Écosse. Donc ils se sont mis à...
Donc il y a un réservoir.
Voilà, ils se sont mis à y jouer, et puis c'est plus facile, c'est plus ludique, c'est moins compliqué, c'est moins obscur. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans les malls, les rucks, on comprend rien.
Mais avec le rugby à 7, finalement, même si on a dit au début que c'était une façon d'élargir... le rugby à 15, on voit bien qu'un pays comme le Kenya a décidé de mettre tous ses moyens sur le 7 et n'investit pas sur le 15.
Oui, ils n'ont pas d'équipe à 15. Hein.
Voilà, c'est ça, sur les autres pays.
Ouais. Le 7 ne repart pas au 15. Ça, c'est le discours qu'on nous a servi lors de l'entrée au JO, mais c'est faux.
Bon, on en parle un petit peu quand même de la compétition en elle-même. Est-ce qu'il y a un grand favori? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, une équipe qui se dégage, Arnaud Coudray?
Bah, les All Blacks, forcément.
C'est un pléonasme.
Mmh. Ouais, voilà, c'est, ça paraît naturel.
Ils ont perdu 2 matchs, cette année.
Ouais, c'est ça, ils ont perdu 2 matchs. Ils ont été, depuis la dernière Coupe du Monde, ils ont été bousculés par les Lions, qui sont venus, faire une tournée à égalité. Enfin, il y a eu plein de petits de questions. Il y a des questions autour de Boden Barrett, qui a été élu meilleur joueur du monde 2 fois, mais qui a perdu sa place à l'ouverture. Donc il y a plein d'interrogations sur cette équipe. Et puis surtout, ouais, il se frotte à l'Afrique du Sud d'entrée, qui fait figure quand même d'autres équipes favorites du tournoi. Quoi.
Ils font peur, les Sud-Africains, surtout quand on les voit en photo. Alexandre Pedro, vous avez vu cette photo qui a fait beaucoup parler.
Parce qu'ils contractent, c'est pour ça. Ils sortent de la douche, ils sont gainés.
Ouais,
c'est ça. Oui, bah c'est vrai que c'est un mot qui est un peu tabou dans le rugby, c'est le mot de dopage où il y a eu très peu de cas positifs. Enfin, c'est comme au foot, il y a eu 2 cas positifs dans l'histoire de la Coupe du Monde de foot et en rugby, je crois même pas qu'il y en ait eu un. C'est peut-être parce qu'on cherche pas beaucoup, mais qu'on voit les transformations physiques des joueurs depuis l'avènement du professionnalisme. C'est sûr qu'on peut se poser quelques questions de ces évolutions-là.
Alors, vous avez parlé évidemment de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous voyez une équipe européenne, l'un et l'autre, qui peut aller au moins en finale, se hisser et rivaliser avec ces équipes-là?
L'Angleterre ou le Pays de Galles, voire l'Irlande. Hein, et c'est depuis 4 ans. C'est vraiment des équipes de top niveau mondial. L'Irlande a battu 2 fois les All Blacks quand même sur les 3 derniers matchs. Le Pays de Galles, personne ne les attendait sur le dernier tournoi. Ils font grand chelem en battant l'Irlande, en battant l'Angleterre. L'Angleterre est montée en puissance avec Eddie Jones. On se rappelle la démonstration qu'on a eue contre le 15 de France à Twickenham lors du dernier tournoi. On prend 40 points et c'est pas le même sport.
J'ai l'impression que l'Irlande et le Pays de Galles ont une sorte de plafond de verre en quart de finale, alors que les Anglais sont capables de hisser leur niveau de jeu. Voilà. Personnellement, l'Irlande, je souhaite pas trop qu'elle aille très loin. C'est une très forte équipe, mais c'est un rugby très robotique, très schématique.
C'est simple. On va dire que c'est simple.
C'est très efficace, mais c'est pas la meilleure publicité pour ce sport. Vous avez jamais vu du rugby d'Irlande.
Vous diriez que c'est une Coupe du Monde plus ouverte que les autres ou pas vraiment?
Moi, je pense.
Plus ouverte, oui.
Je trouve que l'Afrique du Sud et l'Angleterre sont quand même assez proches de la Nouvelle-Zélande. On a quasiment 3 équipes qui se dégagent.
Ouais, complètement.
Bon, on en parle? De l'éléphant dans la pièce. L'équipe de France, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Souhaitons-lui de battre l'Argentine. C'est la seule chose à laquelle je pense qu'on peut prétendre. L'Angleterre, pareil, inabordable. On a été placé donc dans la poule de la mort. Ça serait quand même un gâchis énorme, même si le 15 de France ne va pas bien depuis 2011. Ça serait quand même dingue que le 15 de France, pour la première fois de son histoire, n'arrive pas en quart de finale, quoi. C'est jamais arrivé. Ça serait quand même triste pour ce sport qui souffre un peu déjà d'une image en perte de vitesse, des résultats en berne, des affaires extrasportives qui viennent polluer tout ça. Il y a tout un faisceau de choses qui sont réunies pour que ce soit pas une catastrophe, mais que ce soit vraiment pas terrible, quoi.
Alexandre Pedro, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est quand même incroyable qu'on repense à l'effervescence qu'il y avait en 2007 avant la Coupe du Monde en France, où il y avait quand même des débats, peut-être ici à RFI, on demandait si le rugby allait concurrencer le foot. Aujourd'hui, on est complètement revenu. Et si la France se fait le premier tour, le 15 de France, c'est la vitrine du rugby. Les gens s'intéressent au rugby et pour le 15 de France. Après, Toulon, le Stade français, le Stade toulousain, c'est pour les spécialistes et pour les gens de ces villes-là. Si le 15 de France se fait éliminer au premier tour, on risque d'avoir un gros mal de tête.
Je vais faire l'avocat du diable.
Et c'est possible.
Je vais faire le mauvais français. Voilà. Est-ce que ça serait pas salutaire pour l'équipe de France de prendre cette claque que vous évoquiez, Arnaud Coudry, qui est une élimination au premier tour, pour prendre conscience de ses insuffisances? Parce qu'il y a eu le quart de finale contre les All Blacks la dernière fois avec 60 points encaissés. Apparemment, ça n'a pas suffi.
Non, complètement. On a été au point mort. En termes de querelles et de guéguerres entre la Ligue et la Fédération en France, où chacun a ses petits avantages, son petit précaré. Il y a eu des progrès, des mises à disposition de joueurs, des temps de préparation améliorés. C'est pas la panacée. Il y a eu un peu de mieux. Et aussi, on peut dire que dans le jeu, l'arrivée de Fabien Galthié, pour l'instant, du peu qu'on en a vu, 3 matchs, ils essayent quand même d'aller vers ce qu'est le rugby international. C'est-à-dire un jeu plus rapide, plus intense, des efforts répétés, ça va dans le bon sens. Il va avoir 4 ans pour Fabien Galthié, donc pour préparer l'équipe de France pour une Coupe du Monde en France. À mon avis, ça, en termes sur le purement du jeu, ça va dans le bon sens.
Alexandre Pedro, j'insiste, excusez-moi, est-ce que ce serait pas assez juste, en fait, avec tous les efforts qu'ils ont fait pour jouer au plus haut niveau, les Argentins, aller jouer avec les pays de l'hémisphère sud, est-ce que ça serait pas assez juste qu'ils gagnent ce match?
Eux, ils ont tout bien fait, ils ont eu un projet cohérent, structuré. Nous, on a fait n'importe quoi pendant 8 ans, on est l'élève qui a rien révisé, qui ouvre son fascicule de philo le 15 juin, et qui se dit, sur un malentendu, si je prends le bon sujet, je vais peut-être m'en tirer. Le pire, c'est qu'on peut s'en tirer, mais c'est devenu tellement culturel dans le rugby français de se dire, et sur un malentendu, on peut le faire.
3 mois de préparation, on peut y arriver.
Voilà, un jour, ça passera pas.
C'est peut-être cette fois-ci. Merci Alexandre Pedro, merci Arnaud Coudry d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour les Dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.